l'école a cédé. Et j'en veux pour preuve cet aspect de la réforme particulièrement scandaleux et même révoltant, qui est la généralisation des enseignements pratiques interdisciplinaires au collège, au niveau 4, c'est-à-dire à la fin du collège. Et parce que ces enseignements pratiques interdisciplinaires se font, se répandent au détriment des disciplines. Vous avez parlé de la réforme de l'orthographe. Elle est absurde à plus d'un titre, mais surtout, elle intervient à un moment donné, à un moment où ce n'est pas l'orthographe de Nénuphar qui pose un problème particulier aux élèves, c'est la syntaxe, les accords du participe passé, ou même le pluriel des verbes et des substantifs, parce qu'ils sont confondus. On peut voir des copies jusque très tard, jusqu'au bac inclus, où les peuples sont écrits ENT et avec une terminaison ENT et il peuple avec ES. Donc il y a une confusion générale, si vous voulez, et jusqu'au niveau du bac et même sur les bancs de l'université. Donc c'est le problème, la défaillance est là, et ce n'est pas du tout l'orthographe de Oignon qui est en cause. Et je remarque que ceux qui ce ne sont pas les puristes comme aiment à le dire les animateurs ou les humoristes des radios et de la télévision qui protestent contre cette réforme, ce sont les gens, c'est le peuple, parce que Oignon c'est à la fois un légume, c'est un nom et c'est un légume familier dont on voit que l'on voit écrit dans les marchés, sur les panneaux. Et tout d'un coup, on lui retire son « i » sans avoir rien demandé à personne, parce qu'une réforme, est là, éventuellement, pour sanctionner, pour valider les modifications de l'usage. Alors là, il s'agit d'une réforme purement technocratique, purement bureaucratique, qui n'a rien à voir avec l'évolution naturelle de la langue. Rien. Et tout d'un coup, elle tombe du ciel sur des gens qui ne l'ont pas demandé et qui ont l'impression qu'on touche à la langue en tant qu'elle est leur bien commun, parce que la langue appartient à tout le monde. Elle n'appartient... personne n'en est propriétaire, et surtout pas les bureaucrates de l'éducation nationale. Voilà. Donc, c'est, je crois, le sens de la révolte contre cette réforme, et cette révolte est évidemment calomniée aujourd'hui à la télévision et sur toutes les radios. Mais pour revenir à la question des siècles...
En tout cas, votre honneur est sauf, puisque ce n'est pas l'Académie française qui approuve cette réforme.
Non, l'Académie française désapprouve violemment cette réforme. Elle est très... malheureuse d'avoir été prise en otage par Najat Vallaud-Belkacem, parce que en 1990, je crois, j'ai pas très bien compris, son secrétaire perpétuel de l'époque, Maurice Ruon, avait éprouvé dans son principe l'idée de quelques retouches orthographiques. Il est vrai qu'à ce moment-là planait la menace d'un véritable passage à l'écriture phonétique. Donc cette réforme avec quelques retouches, le principe de quelques retouches avait été approuvé comme une sorte de moindre mal. Mais maintenant, nous sommes dans un tout autre climat, et l'Académie française le dit, mais bon, je ne pense pas qu'elle sera entendue. Ni non plus sur la question de la réforme de l'école, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, l'Académie française a mauvaise réputation. L'Académie française, c'est, dit-on, le lieu de l'académisme, le temple de la bourgeoisie bornée. Donc, au contraire, si vous voulez, tous ceux qui prennent une décision contraires à ce que veut l'Académie peuvent se prévaloir de la qualité de rebelles ou de dissidents. Alors maintenant, donc on aura des technocrates rebelles. De rebelles, disons. On aura des technocrates rebelles. Mais pour ce qui est de la réforme, elle est, si vous voulez, ce qui est déplorable, c'est avec ces enseignements pratiques interdisciplinaires, c'est qu'ils réduisent encore la part de l'enseignement du français. Parce qu'il faut bien faire de la place à l'interdisciplinaire. Et c'est les disciplines qui font la place. Donc les disciplines fondamentales, les humanités disparaissent, plus de grec, plus de latin, et le français est réduit à la portion congrue au profit de quoi ? Au profit d'un préchiprécha, d'un catéchisme éco-citoyen. Je me souviens d'un article paru dans Télérama il y a quelques semaines, sur un collège de Tours, le collège Stalingrad, où il y avait, entre autres projets interdisciplinaires, un projet hip-hop et art de la rue, piloté par professeur d'art plastique, professeur de gymnastique, professeur de français, et un projet mixité, avec un sondage sur les rapports garçon-fille. Voilà, donc tout ça, c'est quand même l'air du temps, et beaucoup de projets de développement durable aussi. Donc, l'ère du temps, ce qu'il faut aujourd'hui, la mentalité de l'époque, au détriment, justement, d'une connaissance approfondie du passé, et c'est une école qui ne joue plus son rôle admirablement défini par Hannah Arendt dans son article sur la crise de l'éducation. Les adultes, dit-elle, sont les responsables du monde, parents comme professeurs, ils disent aux enfants « voici notre monde » et ils introduisent les enfants dans un monde plus vieux qu'eux. Voilà, dit-elle, pourquoi l'éducation doit être et nécessairement conservatrice. Et c'est précisément lorsqu'une fois qu'il est introduit dans ce monde, que l'enfant peut développer, dit encore Hannah Arendt, ses capacités créatives, ses capacités révolutionnaires, son pouvoir de commencer quelque chose de neuf. Et l'école n'assume plus cette responsabilité du monde, ou cette responsabilité pour le monde. Fascinée qu'elle est, obnubilée qu'elle est par les exigences du présent. Et je trouve que, malheureusement, la droite et la gauche sont allées toutes dans le même sens depuis qu'a commencé cette espèce d'agitation réformiste de l'école, et que la dernière réforme, celle qui a été prise par, proposée par Najat Vallaud-Belkacem sous le gouvernement Valls, porte le coup de grâce. Et ce qui va se produire, c'est que vont se multiplier en France les écoles privées, et même les écoles privées hors contrat. Parce que le contrat oblige finalement à respecter tout ça, et il y a de plus en plus d'écoles privées hors contrat, parce que précisément des parents veulent pour leurs enfants un enseignement exigeant, un enseignement digne de ce nom. Malheureusement, évidemment, ces écoles, ça coûte un peu d'argent, et c'est donc, encore une fois, on fait tout ça au nom de l'égalité, et ce sont les défavorisés, au bout du compte, qui trinquent.